musique. Inouï.
Caravanana maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Pour
vive mon pain, vive le soleil. Vive
les oreilles.
Vive.
We'll be right back.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, à Montréal et oui, au Canada, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuse. Nous avons débuté l'émission avec un extrait de l'album Sea Fluorescent de Alain Belaïch, qui est notre invité aujourd'hui, avec le titre California. Bah ça, Alain, j'arrive à le dire, hein, malgré mon piètre anglais. Yeah. California. Ouais, bonjour bravo. Alain.
Bravo, bravo.
Nous avons également avec nous Théo Jarier du Souffle Continu. Bonjour Théo.
Bonjour. Salut Christophe.
Alors, bienvenue à tous les deux. Très content de vous recevoir.
Merci.
Et, ouais. Et peut-être Alain, ma première question, on va commencer par le commencement. J'aimerais savoir comment as-tu appris à jouer de la guitare? Comment et quels furent tes débuts dans la musique?
J'ai toujours eu envie de jouer de la guitare, mais j'ai vraiment commencé peut-être quand j'avais 16-17 ans par là. Je suis parti sur les routes d'Europe et j'ai joué dans les rues, d'abord sur les plages.
Alors tu vivais pas au Canada à cette époque?
Ah bah non, moi j'habitais à Cannes à l'époque. Et ensuite, Paris, là j'ai commencé à jouer aux terrasses de café, dans les petits clubs de folk. Puis assez vite, j'ai rencontré des musiciens, évidemment. J'étais à Paris, donc il se passait quand même des choses. En tout cas, à l'époque où j'y étais, maintenant je ne sais pas parce que je n'y habite plus. Je sais qu'il y a encore d'excellentes choses qui s'y passent, bien sûr.
Tu peux situer un peu dans le temps, c'était quelle époque ?
Là, on parle du début des années 70, en fait. Hein. 70, 71, j'avais 20 ans, quoi. Donc, c'était il y a un certain temps. Et puis, c'est ça, j'ai rencontré des super musiciens ici. Alain Renaud, avec qui j'ai fait longtemps jouer en duo. Mmh. Acoustique, des voix. Ensuite, on a fait un groupe avec Clément, Bailly, Adjibili, qui était en fait Renaud et Adjibili jouaient dans un groupe qui s'appelait Triangle à l'époque.
Ah mais oui.
Et c'est moi ça. Ouais. Excusez-moi. Alors, attendez, je vais fermer ça parce que c'est un peu chiant quand même.
Ah oui.
Et puis.
Oui, Triangle, bien sûr. Ouais, je me souviens.
Ouais, Triangle. D'ailleurs, la première fois, le premier concert que j'ai vu à Paris, c'était Soft Machine.
Oh là, ouais.
Au Bataclan, et Triangle était en première partie.
Génial.
Donc c'était quand même pas mal dans le genre.
Le groupe avec François Janot.
Je ne sais pas s'il y avait François Janot. Je pense qu'il y avait Guy Delacroix et Prévota à la batterie. Mmh. Clément n'était pas là, mais enfin, Clément est arrivé après, je pense. Enfin, bref. Après, on a fait des groupes ici, on a fait peut-être 2, 3, 45 tours. Et puis finalement, il y a eu un plan pour aller enregistrer à New York.
Ah bah oui, c'est ça. Alors, c'était ma question d'après. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir pour les États-Unis d'Amérique? En 1973, je crois.
C'était l'occasion qui a fait le larron, en fait. J'avais déjà été aux États-Unis. Justement, avec Alain, on avait fait quelques petits clubs comme ça en duo, dont une fois à l'université de Syracuse, où on avait quelques connaissances. Et il y avait un club où on a joué, qui s'appelait le Jabberwocky, qui était un club où il n'y avait que le public. Enfin, c'était des étudiants, quoi. Tu vois, c'était un truc de la ville. Et le premier soir, on devait jouer le lendemain. Mais moi, j'ai été écouter un peu ce qui se passait le premier soir. C'était en 71, je pense. Et il y avait un groupe qui s'appelait Weather Report.
Ah ouais.
Carrément. Et c'était vraiment l'original de Weather Report avec Zawinul, les shorters, bien sûr. Et Doumoum Romain aux percussions, Eric Gravatt à la batterie et Miroslav Vitus. Contrebasse, et c'était carrément, ça a changé ma vie, quoi, en gros. Et évidemment, bon, j'ai continué à faire ce que je faisais, mais ça gambergeait quand même.
Ouais.
Ouais, ouais. Mais moi, c'était magnifique. Je suis resté toute la soirée, là, les deux sets. C'est sûr que j'ai adoré ça. J'ai vu. Weather Report, je les ai peut-être vus 10 fois dans, sur scène, toutes les formations, etc., etc. Bref. En tout cas, voilà. Donc, ouais, j'ai fait ce premier disque, cet premier album métropolitain à New York. Ouais. Avec Warnell Jones, qui est le bassiste, qui joue aussi sur Sea Fluorescent. Il y avait Nils Lofgren, qui était quand même, qui a pas joué de guitare là, mais qui a joué du piano acoustique et de l'orgue, et un batteur qui s'appelait Mark Siddons. Et donc après ça, voilà, je suis revenu en France. Le disque est sorti en France. C'est sorti quand même sur Asylum. Donc, et ensuite, je suis retourné assez rapidement faire un autre album.
Ah mais tu brûles les étapes, là.
Ah oui, complètement.
Ça va trop vite. Tu vas trop vite. Ben, je voulais savoir comment un musicien français était-il accueilli, ou est-il accueilli, je ne sais pas si ça a changé, aux États-Unis.
Ben, très bien. Je dois avouer que j'étais très bien accueilli. Ouais, ouais. Et... je veux dire, par les musiciens, bien sûr. Et puis, c'était même vraiment très, très agréable. J'avais joué avec des très bons musiciens en France. Et puis, c'était vraiment chouette, c'était sympa. Mais aux États-Unis, je ne sais pas, il y a eu quelque chose de supplémentaire. C'est-à-dire comme un genre d'implication supplémentaire. Je ne sais pas si on dit ça en français. Oui, oui.
Mais tu jouais avec des musiciens aussi américains. Ça peut changer un peu la donne.
Tu veux dire aux États-Unis?
Ouais, allé avec des musiciens français.
Donc, je suis allé, le premier album, je l'ai fait avec Alain Renaud. Ouais. Mmh. Et donc, on l'a fait ensemble avec les musiciens américains. Et le deuxième album, je l'ai fait aussi avec Jean-François Fabiano, qui joue de la batterie et des percussions dans Sea Fluorescent, donc. Et grâce à qui j'ai rencontré John Hicks, qui est venu jouer, et Warnell. Donc, on était vraiment 4 à faire cet album, plus bon, une vocaliste, 2 vocalistes. Et donc, c'est ça, c'était toujours un peu mélangé, au moins. Et puis, ça gardait un lien quand même avec les gens avec qui j'avais travaillé en France. Et puis, voilà, donc, ça a donné ce que ça a donné. Mais les disques sont sortis, en fait, sur... WEA à l'époque, en France et en Belgique, en Suisse, je crois, dans d'autres pays peut-être un peu européens.
Mais alors, ils sont sortis quand même aux États-Unis sur Asylum, le label de David Geffen.
Eh bien, Asylum, oui, en fait, ils ne sont pas vraiment sortis Asylum.
D'accord. Comment tu es rentré en contact avec lui,
Moi, je ne l'ai pas connu, David Geffen.
Ah ouais, d'accord.
Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Non, je plaisante.
il est milliardaire aujourd'hui, mais peut-être à l'époque, il ne l'était pas.
Non, mais bon, mais c'était extraordinaire de sortir sur Asylum Records. Il y avait Joni Mitchell, il y avait Jackson Browne, il y avait plein de monde là, qui était très bien là, à l'époque, et toujours, d'ailleurs. Mais... non, ça s'est passé. Ça a été d'autres circonstances. Il y avait le producteur en fait qui a produit, le producteur exécutif de ces deux disques. C'est un ami. C'est resté un grand ami qui s'appelle Rolf Spahr, qui avait démarré une maison d'édition qui se trouvait à Saint-Cloud. Qui s'appelait Tabata Music à l'époque, et puis voilà, et puis Mood Music fabriquait, en fait c'était eux qui fabriquaient toutes les cassettes pour toutes les grandes compagnies de disques françaises, et donc ils avaient un deal avec 3M qui fournissait la bande magnétique en gros. Et donc 3M était aussi propriétaire de Bell Sound Studios à New York. Et le président, Alan Weintraub, était un mec vraiment formidable, qui m'a aussi beaucoup aidé quand j'étais à New York, et qui a toujours été, a fait attention à ce que je sois pas dans la merde. Donc, c'était vraiment sympa. Et donc, c'est par Rolf que tout ça s'est passé. Et le contact avec WEA, la connexion, eh ben, c'est à cause de la fabrication des cassettes, etc. Ouais, des 8 pistes à l'époque, tout ça.
D'accord. Ok. Bah, je propose qu'on écoute, puisque tu en as parlé, Weather Report. Peut-être tu as un petit mot sur...
Weather Report, là je pense qu'on a choisi un morceau qui s'appelle Manolette, qui se trouve sur Sweet Nighter, qui est leur troisième album.
Ouais.
Qui est, je pense que c'est le troisième, deuxième ou le troisième.
Ouais, j'ai un doute, je ne sais plus.
Ouais, en tout cas, cet album-là est magnifique. Ouais, c'est encore vrai. C'est toujours la première mouture.
C'est vrai. Il y a Vitus à la basse,
toujours, il y a Domo Mormao, c'est magnifique, quoi. C'est le paradis de la mélodie et puis de tout le reste, quoi.
Thank you.
Voilà, Weather Report dans les oreilles libres sur Radio Libertaire, émission consacrée aujourd'hui à Alain Belaïche. Alors Alain, est-ce que tu as connu tous ces gens-là? Est-ce que tu les as côtoyés? Est-ce que tu as joué avec eux? Je pense aux...
Non, je n'ai pas joué avec eux, mais j'ai joué avec d'autres gens. Ouais. Oui, je les ai rencontrés, bien sûr, ouais. Parce que bon, j'allais, dès que ça jouait, quand j'habitais à New York, j'y habitais quelques années, dès que ça jouait dans un club, ça pouvait être à Long Island, ça pouvait être au Beacon Theater à New York, dans le Upper West Side. Et puis bon, là j'y allais, puis voilà, donc je rencontrais ces gens-là sans problème.
Ouais, c'est ça, ils sont abordables ou par rapport à...
Très abordables, ouais. Très abordables. Il suffit de pas leur sauter dessus, mais c'était vraiment relax, quoi. Puis je me suis même retrouvé dans une voiture avec Joe Zawinul et il y avait Wayne Shorter. Enfin bon, et puis ils m'ont laissé. On revenait de Long Island, ils m'ont laissé, ils m'ont droppé à New York, à Manhattan. Zawinul m'a dit « Don't get mugged ». Alors, j'ai dit « What ?» Il m'a dit « Don't get mugged, you know ? Stomped on, beat up ». Ah là, j'ai compris. Oh, bah bon, j'étais jeune, quoi. Hein,
ça, ça voulait dire quoi ?
Donc, tout ça, j'apprenais l'anglais aussi. Enfin, j'apprenais. Je parlais anglais, mais...
Tu peux nous traduire, parce que moi, je suis pas très anglais.
Bah, ça veut dire « Te fais pas casser la gueule », quoi.
Ah,
en
ouais,
gros. J'ai dit « Merci, Joe ». Ouais, c'était assez marrant, quoi. Mais c'était ça. J'ai rencontré ces gens-là, ça a été vraiment super. Et ensuite, j'ai aussi joué avec... Bah, c'est-à-dire à New York, on pouvait jouer avec n'importe qui, en gros. Hein.
C'était possible dans ces années-là. Quoi.
C'était possible, et puis les mecs étaient vraiment très ouverts à jouer une musique
abordable,
qui leur plaisait, en fait. Dès que ça leur plaisait, comme j'ai joué avec pour Kyrillian Effect, j'avais commencé à monter ce groupe avec Fernando Sanders, qui était le bassiste qui avait joué avec Ian Hammer, avec McLaughlin, tout ça, et Tony Smith, même chose. Et puis ces gens-là ont été extraordinaires, c'est-à-dire, ouais. Ils m'ont dit, ouais, on joue, allez, vas-y, tout ce que tu veux, même jouer les morceaux de Sifluorescente, on répétait tout ça et tout, c'était vraiment chouette. C'était une belle époque, voilà.
Ouais. Et alors, on a commencé l'émission avec California. Là, tu nous parles de New York. Est-ce que tu as été en Californie? Est-ce que tu as eu des liens avec...
J'ai vécu aussi un peu à San Francisco avec mon épouse de l'époque, qui était new-yorkaise. Donc, on était partis à San Francisco. Et bah, c'est ça, bah, là, j'ai rencontré aussi, surtout vers Oakland, c'était l'époque de Tower of Power, il y avait Herbie Hancock qui était pas mal souvent là-bas aussi, et je travaillais dans un magasin de disques en fait. Hein.
Ouais.
Ça c'était après mes albums, hein. c'était à la fin des années 70, pas très longtemps, mais c'était une belle époque quand même, j'ai rencontré pas mal de monde, travailler à Tower Records à Berkeley. Ça, c'était quand même une expérience. Ça a été un magasin de disques, mais comme on n'en fait plus vraiment beaucoup. Hein, si, il y a bien eu à Los Angeles, Amoeba, qui était un immense truc. Ouais. Mais oui, la Californie, c'est sûr que c'était la même chose que le sud de la France, en gros, mais ouais. Avec des Américains, quoi. Partout.
Et alors, revenons un petit peu en arrière. En 74, tu sors donc Metropolitan. Avec Alain Renaud, tu l'as évoqué tout à l'heure, est-ce que tu peux nous parler de lui un petit peu plus et surtout de votre collaboration? Par exemple, vous n'avez pas fait de groupe ensemble, vous n'avez pas, parce que lui a fait Triangle et tout, pourquoi pas avoir fait un groupe?
Ah non, mais on a fait un groupe, bien ouais. Sûr, on a joué, on a fait plusieurs concerts, on a même joué à la Fête de l'Humanité en 74. Il y avait Patrick Gauthier aussi qui est... Un vieux copain et au piano. Mais il se passait tellement de choses qu'on a fait des groupes, on a joué, on a fait Bus Palladium, on a fait des trucs comme ça. Mais... Et puis bon, après, ça s'est refait, ça s'est défait. Ah oui. Puis bon, moi, je suis parti aux États-Unis, il faut dire. Mais Alain, lui, a fait aussi ses groupes. Il a fait ses albums. Voilà. Mais on a travaillé quand même pas mal ensemble au début. C'était magnifique de pouvoir travailler avec Alain, quoi. Moi, j'étais plus rythmique et voix, et Alain faisait quelques voix et aussi solo, quoi. Pour moi, guitare solo, c'était pas encore. C'est plus tard que c'est arrivé, autant que possible. C'est ça, non? Ça s'est défait. Ça s'est défait par mon départ, en fait. C'est moi qui suis parti. Alors voilà.
Et on va écouter tes morceaux, bien sûr. Après une pause musicale, on va rentrer dans le vif du sujet, si fluorescente. Mais tu nous as proposé aussi quelques musiques que tu voulais nous faire écouter, et dont David Crosby. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi.
David Crosby, c'est une assez grosse influence. Moi, j'ai beaucoup écouté d'abord les Byrds, bien sûr, et puis avec Crosby, Stills, Nash et Young. Tout ça, c'est l'époque, c'est là où j'ai commencé à faire de la musique, en gros, aussi. Avant, il y avait Beatles, Hendrix, Dylan, les Stones un peu moins, et puis tout le rhythm and blues. C'était un peu ça, mes influences qui m'ont vraiment amené à aller de l'avant là-dedans, quoi. Sans réfléchir beaucoup, on ne réfléchit pas beaucoup, on se dit bon, c'est ça que j'ai envie de faire, et puis c'est ça qu'on fait. Mais Crosby, oui, c'est
l'idée de voyage aussi, parce que comme tu as pas mal voyagé, tu es en France, tu es parti à New York et puis en Californie, etc. Je pense que aussi Crosby, c'est lié aussi à...
Peut-être bien.
Un peu planant, un peu voyage.
Tout à fait, mais c'est aussi surtout les voix, sa manière de chanter, son teint de voix, et puis les harmonies qu'il amène, évidemment, avec... où on a entendu ça, évidemment, avec The Byrds, avec Stills, Nash, Young, tout ça. C'était magnifique, quoi. Donc évidemment, dans le premier album, on sent beaucoup plus l'influence de Crosby.
Mais encore dans Sifflure récente,
il y a un morceau dans Sifflure récent qui est Saint Andrea, qu'on écoutera peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Mais...
On va l'écouter après. Ouais. Bon, voilà, donc on pourra faire la comparaison. Je vous propose d'écouter David Crosby.
Oh, pas de comparaison, s'il vous plaît.
Fishing endless in the flooded palace where the king of Venice used to lie.
Lonely woman plants a rooftop garden from the soil that's blown in and the seeds that washed up on the tides. Fisherman, mankind.
vagrants, fashion tools to save them from the greed born slavers that come swift on dark sails in the night.
Sometimes tyrants passing, hungry silence, either hell-worn orphans in their flooded world, stripped bone dry,
perched like monkeys in a triple canopy. Forgotten how music used to live here, to dance in the mind. Wild people, nearly feral, living on what they can find. Just the vision of fishermen, mankind.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui à Alain Belaïch. Alors, Alain, on va peut-être parler de ce qui nous occupe aujourd'hui, à savoir l'album Si Fluorescente, qui est réédité ces jours-ci. Je voudrais savoir, c'est un album plus rock que le précédent, avec un line-up différent, on l'a dit, enfin, à part, en dehors du bassiste, hein, Warnell Jones, on a dit également qu'Alain Renaud ne t'avait pas suivi. Je veux savoir quelle a été la genèse des titres, parce qu'il est arrivé assez rapidement après j'ai l'impression quand même, après le premier album.
Un an plus tard.
Oui,
c'est arrivé un an plus tard. C'était une période faste au niveau de l'inspiration. Donc, il y a eu la possibilité de faire ça à New York à nouveau, dans le même studio. Et là, j'avais rencontré Jean-François Fabiano à Paris, qui avait joué des percussions un ou deux concerts qu'on avait fait, dont un au Bus Palladium, je me rappelle. Et Fabiano voulait partir à New York aussi, donc voilà, on s'est retrouvé à New York, lui avec sa femme aussi, puis on a fait cet album ensemble, et c'est grâce à lui d'ailleurs, comme je dis, que j'ai rencontré John Hicks. Et donc John Hicks, évidemment, je le connaissais pas vraiment, mais après, quand je me suis quand même renseigné, c'est quand même, il avait joué avec Art Blakey, joué avec Betty Carter. Enfin ouais, bon, c'était quand même.
Il était aussi très connu pour être le pianiste de Pharoah Sanders. À une
époque. Il avait joué avec Pharoah Sanders. Ouais. Bon, il a joué avec tout le monde en gros. Hein, donc.
Justement, les noms que vous citez là, c'est plutôt sur l'univers du jazz, enfin carrément.
Ah carrément, non mais carrément. Donc jouer cette musique que moi j'amenais, c'était il avait jamais vu ça en gros quoi, il n'avait jamais participé à un truc pareil, mais bon, il l'a fait avec beaucoup d'humour et de joie, et puis c'était un mec évidemment adorable qui a beaucoup amené à toute cette musique, et donc voilà, donc entre lui, Warnell et Fabiano, Ça a donné toutes ces couleurs, toutes les couleurs de cet album.
John Hicks, alors c'est le solo qu'on a écouté.
Lui qui joue, qui fait toutes
sur California là quand même.
California, c'est toutes ces ambiances qu'on a créées dans Si Fluorescent qu'on écoutera plus tard. C'est ça, ouais. C'est vraiment, c'est même au niveau, c'est un peu plus, cet album il est plus rock, mais il est plus funky aussi,
oui,
évidemment,
oui, tout à
donc
fait, oui.
Et puis c'était l'ambiance de l'époque aussi, hein, ouais. Bien sûr, ouais. Et donc d'être encore plus à New York, et avec Fabiano, j'étais j'ai connu plus le milieu plus jazz, plus funk.
Mais alors, ça posait pas de problème de se mélanger? Par exemple, John X qui vient jouer avec vous, ça, il y avait pas de barrière comme ça? Parce qu'aujourd'hui, il y en a pas mal.
Je sais pas de quoi vous voulez parler, mon cher. Non, parce que les barrières, je les ai jamais ressenties vraiment. Ouais. Il y a eu quelques petits épisodes un peu fâcheux, mais pas avec ces gens-là, certainement pas. Ni avec Fernando ou Tony ou tous les gens avec qui j'ai joué. Il n'y a jamais eu
Ça se mélangeait beaucoup plus aussi à l'époque, ça c'est sûr.
Se mélangeait, c'est juste maintenant qu'il y a une ambiance de merde et que c'est vraiment n'importe quoi.
C'est beaucoup plus cloisonné, ouais.
C'est juste cloisonné, mais je pense que on est en train de pas parler des bonnes choses, simplement, aussi. On oublie les vraies choses et on parle de trucs complètement débiles, hallucinants, quoi. Voilà, pour moi c'est ça qui se passe, mais bon, après on est d'accord ou pas, mais à l'époque en tout cas je rencontrais Keith Jarrett dans la rue, je veux dire, c'était vraiment parce qu'on était aussi à New York. C'est quelque chose qui n'arrivait pas à Paris, quoi. Je connaissais Tony Williams, quand il venait à Paris, on traînait ensemble. C'était autre chose, voilà, c'est tout. Maintenant, c'est tout, c'est une époque.
Et alors parlons de choses, de Jerry Goodman par exemple, de Mahavishnu Orchestra par exemple. Il joue sur un morceau dans Si Fluorescente.
Ouais.
Alors comment t'es rentré en contact avec lui?
Je l'ai téléphoné.
C'est pas compliqué.
Non, en fait, je connaissais, j'avais été voir Jean-Luc Ponty qui jouait à l'époque. D'abord, j'avais été le voir à Los Angeles parce qu'il jouait avec Zappa à l'époque. Donc, j'avais été le voir en studio à Los Angeles avec Zappa. Et ensuite à New York, ou alors c'est le contraire, je sais plus. Bref, mais je voulais qu'il joue justement sur un morceau et il m'a dit qu'il pouvait, enfin il pouvait pas le faire. Bref, il m'a dit appelle Jerry, il m'a donné son numéro, puis voilà, je l'ai appelé, je l'ai fait venir, je lui ai envoyé un billet d'avion et une chambre d'hôtel, et puis voilà quoi, il est venu jouer quoi.
Mais alors, il joue que sur un morceau?
Malheureusement.
Mais ouais, bah, comment ça se fait alors?
C'est que ça s'est trouvé comme ça.
Ah ouais.
Ça s'est trouvé comme ça. C'était le morceau justement où j'avais besoin d'un violon de cette trempe, évidemment. Surtout quand on. D'abord, il faut bien dire que le son de Mahavishnu, comme le son de Ian Hammer, tout ça, au départ avec Jerry Goodman, c'est un son quand même assez particulier. Ouais. Il n'y a qu'à écouter ce qu'il fait maintenant. On se rend compte vraiment de l'importance de ce qu'il a amené quoi à toute cette musique, hein. C'est incroyable quoi. Enfin bon, c'est tout ce qu'il fait, c'est assez magnifique en tout cas.
Alors on va écouter Saint Andrea. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur le morceau avant?
C'est un morceau acoustique avec plusieurs voix et c'est une balade.
Eh ben on écoute. Do 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 Voilà. Alors, je voudrais savoir comment l'album a-t-il été reçu aux États-Unis ? Est-ce qu'il a eu un écho ? Est-ce que, comment ça s'est passé pour toi ?
Ils ne l'ont pas reçu, donc. Non, ça a été importé. Je sais qu'il y a eu des importations. A&M était intéressé aussi à l'époque. À refaire une licence. Ça ne s'est pas passé pour plein de raisons un peu débiles dans lesquelles je ne vais pas rentrer parce que c'est inutile. Donc, ce n'est pas sorti. Mais moi, j'ai été avec ces albums. J'ai été à Los Angeles chez Elektra Asylum, justement. Je n'ai pas dit je veux rencontrer David Geffen, mais j'ai dit, bah, voilà, je suis... Mes disques sont sortis chez vous. Ouais. Comment ça se fait que ça... Ouais. Et donc, c'est là que j'ai appris qu'il y avait tout un imbroglio entre WEA France, WEA Amérique, Tout ça, c'est des trucs corporatistes que, bon, bah, moi, j'étais pris là-dedans. Et puis, je pouvais absolument rien faire. Donc, ils ont été très gentils avec moi. Mais bon, voilà. Ça ne s'est pas passé. Après, je suis passé à autre chose. Hein, donc,
mais oui.
Mais aujourd'hui, ils vont vraiment réaliser ce qu'ils ont raté à l'époque. Quoi.
Et en France, donc, c'est pas sorti non plus, si ?
En France, de quoi ?
L'album.
Sifflorescent, bien sûr, c'est sorti en France.
Alors ici, est-ce que ça t'a ouvert des portes ou tout...
Ça a bien marché, oui, ça a bien marché. Mmh. Le premier a bien marché, le deuxième a moins bien marché. Mais bon, il faut dire que je suis parti à ce moment-là, je suis parti, c'est là que je suis vraiment parti à New York. Mmh. Et donc, toute la dynamique, en fait, je l'ai emmené avec moi.
Ah ouais.
Mais le disque, lui, il a fait son chemin tout seul, en gros. Quoi. Donc, voilà, et puis... ce qui est marrant, c'est que bon, petit à petit, c'est un disque qui est devenu rare. Alors, c'est quand même vachement bien que Souffle Continu le ressorte. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Surtout que c'était quand même assez inattendu.
On va en parler après. On va demander à Théo. Hein, on va demander qu'il s'exprime sur la question. Mais moi, j'ai lu une interview de Rock and Folk et tu avais l'air assez un peu dépité par ce qui se passait en France dans la musique à l'époque. Tu avais des propos même un petit peu durs. Je voudrais savoir, avec le recul, est-ce que tu vois ça d'un œil un peu plus indulgent ?
Écoute, en fait, oui, c'est possible. Bon, moi, je pouvais avoir mon côté déprimé aussi à l'époque. Hein, donc, c'est vrai que je pouvais voir les choses un peu de manière sombre. Parce que chaque fois que je rentrais en France, bon, il y avait toujours des problèmes. Alors que quand j'étais aux États-Unis, même s'il y avait des problèmes, il y avait quand même une sacrée dynamique, quoi. Alors voilà, je pense que c'est ça. Je regrette si j'ai heurté quiconque, je le regrette, mais je pense pas, hein, d'ailleurs, parce que c'était jamais vraiment personnel. À moins qu'il y ait des gens qui l'aient pris personnel. Mais sinon, non, c'est sûr que bon, ben. Mais là encore, c'est il y a longtemps, hein,
ouais.
Christophe. Hein, je veux dire,
ouais.
Donc tout ça, c'est un peu parti en fumée. Hein, ça s'est un peu évaporé, disons.
D'accord. Eh bien, on écoute le morceau avec Goodman, peut-être. On en a parlé, on l'avait écouté.
Sure. Oui.
Living on my worries, I've no time left to feel. I lived too long in Paris,
too much time spent wondering. Dust in my city blue, troubles on me pouring. But I can't find the key. I got a woman to love me.
Voilà, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres, et on vient d'écouter un extrait de l'album Sea Fluorescent. Alors, on parlait en antenne et tu me disais que le bassiste habite à Tokyo.
Ouais, Warnell Jones habite à Tokyo, enfin, il habite au Japon depuis 30 ans. Et je l'ai appris il n'y a pas longtemps parce qu'il m'a recontacté et... Voilà, c'était très sympa. Je lui ai envoyé des photos.
Il est toujours musicien ?
Oui, toujours. Ouais. Bien sûr. Ouais.
Alors, Théo, ça va être ton tour. Tu vas passer à la question. Je voudrais savoir, déjà, comment vous êtes-vous rencontré, entré en contact avec Alain ?
C'est grâce à Richard Pinas, qui est venu avec quelques copains un jour à la boutique, qui a débarqué à la boutique. Et dans les quelques copains, il y avait Alain. Et Richard nous a dit, vous connaissez pas Alain ? Il a fait quand même deux disques vachement bien et tout ça. Jetez une oreille, quoi, quand même. Ça peut vous brancher et tout. Puis voilà, on a discuté et tout. Puis Alain, il est reparti. Comme Alain ne vit pas en France, on s'est pas revus tout de suite. Et puis il a redéboulé et il est revenu. Puis entre-temps, on avait écouté.
Ah voilà, ouais.
Voilà. Et il nous dit, qu'est-ce que vous pensez ? Et on a dit, on pense beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, et puis on s'est revus après avec Alain et une amitié qui s'est créée. On adore ce qu'il fait, on adore son travail de l'époque et pour nous ça nous a semblé être une évidence de rééditer ce disque. C'est un petit bijou et on pense que c'est un disque un peu ovni à l'époque. C'est vrai, fait par un musicien français qui s'exporte et qui fait ce disque-là, c'est complètement en décalage avec ce qui se faisait en France à l'époque. Ouais. Et ça nous a vraiment intrigués. Et ce disque est vraiment un bijou, quoi. Ouais. Et on s'est dit, il faut absolument que les gens puissent remettre des oreilles là-dessus, ceux qui n'ont pas pu entendre ça à l'époque. Et faut rendre de nouveau audible ce disque. Et puis il se trouve qu'en plus... avec Alain, on a sympathisé et humainement, ça a bien collé.
Ils sont très sympas. Ouais,
Et voilà, donc tout ça a fait que on porte le disque et Alain le porte aussi parce que ça fait appel à sa mémoire et il a retrouvé des archives et on a travaillé en amont sur le disque parce qu'au début, c'était une réédition basique et puis en communiquant et oui, j'ai les photos de la session, ah bon ouais. Et alors elles sont dans quel état ? Faut que je regarde, ah bon ? Voilà, et puis il a trouvé des archives magnifiques et on a vu les archives, on a fait waouh ! Donc le disque est monté comme ça et il fallait faire quelque chose de beau
Est-ce qu'il y a un travail de remix ou de je sais pas quoi sur le son ?
Alors Alain a fait un travail lui
de mastering.
Alors nous on a quelqu'un qui travaille pour la collection qui remasterise tous nos disques. On fait un travail de son. Il se trouve que là Alain avait fait le travail. Donc quand il nous a dit c'est ça, l'ingénieur du son qui écoute nous a dit le travail est déjà fait quoi. Voilà, il n'y a rien à faire donc. Voilà, Alain, disons que je pense que c'était suffisamment important pour lui. Si on fait la réédition, faut que le travail soit fait, il faut le porter,
C'est quand même une partie de moi, donc.
Voilà, c'est une partie de lui. Et comme nous, on est un peu des archivistes. On aime ça, aime raconter des histoires. Et son disque, il fonctionne. Enfin, quand on a écouté son disque, on a eu vraiment cette impression de raconter une histoire, quoi. Que le disque, il est monté comme un espèce de fil rouge, une espèce de parcours, de voyage. Le disque est vraiment, vraiment bien ficelé, quoi. Il y a une vraie pensée. C'est-à-dire que les morceaux qui s'enchaînent, c'est digne d'un grand disque en réalité. Quand on écoute un grand disque, il est pensé, il raconte quelque chose. On a eu cette vraie impression quand on a écouté le disque. On s'est pas dit, il y a juste, on va le rééditer parce qu'il y a juste trois bons morceaux.
Ah oui,
disque.
Oui, d'accord. Ouais.
On s'est dit, le disque est excellent. Quoi. Et il est monté, il est pensé, il est réfléchi, et il raconte quelque chose. Et nous, notre idée, c'est d'archiver un peu les musiques françaises des années 70-80. Ouais. Et ça rentrait vraiment dans le vif du sujet là. Quoi.
Ouais. Donc vous êtes un peu spécialisé, vous êtes une boutique de disques, donc il y a tout ce qu'on aime ici par exemple, mais dans vos rééditions, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire
On a choisi ce pan-là parce qu'on trouvait qu'il y avait un manque. en fait. On s'est dit des catalogues entiers de musique anglaise, américaine ont été réédités et eux-mêmes rééditent des catalogues entiers de pays européens, etc. Les musiques italiennes, Morricone, les librairies musicales et tout ça, les trucs italiens, la folk scandinave et tout ça, le kraut, la musique allemande des années 70, le krautrock et tout ça. Et on s'est dit en France, ils vont pas tarder de le faire aussi. Faisons-le parce que c'est un boulot qui a pas été fait et si on le fait nous, c'est pas mal parce que on connaît les musiciens. Quand on commence à rééditer un disque d'un musicien français de cette époque, on se rend compte qu'en fait c'est interconnecté. Ils se connaissent tous, quoi. Les musiciens de rock, de jazz, ils ont tous à un moment donné, ils se sont croisés à cette époque-là. Et donc ça crée une histoire, quelque chose à raconter.
D'accord. Et alors, au Souffle Continu, donc dans la boutique, il y a régulièrement des petits concerts ou des rencontres. Est-ce que ça va être le cas là, pour la ressortie de Si Fluorescente?
Ben, malheureusement, Alain va être obligé de repartir au Canada très prochainement. Et c'est un peu à contre-cœur aussi avec ce qui se passe à l'heure actuelle, avec les problèmes de Covid et tout. Il risque la quarantaine. Voilà, il fait le geste où la tête coupée. Donc, no fun. Mais la porte n'est pas fermée, parce que le problème du Covid va être réglé assez rapidement, je pense, dans cette plaisanterie. Mais Alain reviendra. Et voilà, il jouera à la boutique ou pas à la boutique. Peut-être que s'il a d'autres perspectives d'ici là, qu'on organise un vrai concert dans une salle. Enfin, voilà, rien n'est fermé. On se laisse le temps de réflexion, et nous et Alain, et voir ce qui peut nous arriver.
Ouais. Ah, un vrai concert dans une vraie salle.
Pourquoi pas?
Bah oui.
Pourquoi pas? Si Alain en a le désir, nous on l'aidera.
Très bien.
C'est pas juste une question de désir, mais c'est beaucoup une question de désir.
Ouais. On écoute donc le. Alors c'est pas le dernier morceau du coup de l'album, puisqu'il y a des bonus également.
Oui.
Il y a deux bonus. Mais c'est l'album éponyme, comme on dit, le titre éponyme, Si Fluorescent. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres consacrée à Alain Belaïch. Alors on vient d'écouter Si Fluorescente de l'album du même nom. Alors Alain, tu es retour à Paris en 1981. Est-ce que c'est Mitterrand qui t'a fait revenir ?
Absolument pas. il m'a appelé, mais j'ai pas répondu. Bon, et donc, c'est... je suis revenu en France parce que j'avais un peu de boulot en France, en fait. Hein. Ouais. Et puis, je travaillais un peu pour cet éditeur qui éditait en fait ma musique. Donc il y avait des choses à faire, il y avait un peu d'argent à gagner aussi puisqu'il fallait vivre. Hein. Donc c'est ça que j'ai fait. Je suis resté 4 ans à peu près. Ensuite je suis reparti. Ouais. Je suis reparti à New York et puis là j'étais un peu à New York pendant à peu près un an. Et ensuite, j'ai eu du boulot à Montréal et c'est pour ça que je suis resté à Montréal. D'accord. J'ai même joué avec Robert Charlebois pendant 3 ans. Donc j'étais guitariste, donc j'en ai profité. J'ai accompagné un chanteur, chose que j'avais jamais fait auparavant. Alors j'aurais pu tomber pire. Hein,
oui, c'est ce que je disais. exactement. Ouais, carrément. Ouais. Parlons un petit peu de. On a évoqué un peu Richard Pinas. Parlons un petit peu de Eldon. Tu le connaissais avant de la période où tu étais en France, Richard Pinas. Comment tu l'as rencontré?
Richard, c'est un vieux copain. Donc on devait avoir 18 ans. On a le même âge alors. Donc s'est rencontrés. On a dû se rencontrer à la Coupole. devant un Chateaubriand frites en gros et puis évidemment il y avait Richard, il y avait Patrick Gauthier, Richard enregistrait chez lui, il avait du matériel, donc il avait un Revox, un Teac et tout, et on a commencé à faire des disques là-bas chez lui, donc c'est comme ça que ça a commencé. C'est ça, les quelques premiers disques ont été faits maison, quoi, et vendus par la poste. Hein. Mmh. C'était le modèle de Frank Zappa, en fait, hein, à l'époque. Donc, c'était vraiment sympa comme époque aussi. Donc, il y avait plein de gens qui passaient, très bons musiciens, hein, que Richard a fait participer à toute cette musique qui s'est enregistrée à ce moment-là.
Ouais. Alors toi, Eldon, est-ce que tu étais sideman ou est-ce que tu...
Oui, j'étais sideman. Je passais par là, je faisais une guitare au studio. Une fois, j'ai fait une basse. Enfin bon.
Et tu faisais les concerts avec eux ?
J'ai pas fait de concert avec eux. Non. J'ai pas fait de concert avec eux. Ouais. Non, mais ils étaient assez grands, hein, à l'époque, donc ils avaient pas besoin de moi.
Et alors, justement, je voudrais savoir si cette participation au groupe t'a ouvert des portes, notamment, je pense à est-ce que t'as été traîné ta guitare du côté du rock progressif ?
Je dirais pas, non.
Non ?
Non, je pense pas, non. C'était... cette époque-là, c'était toujours... Moi, je continuais à faire ce que je faisais pour moi-même, donc... c'était... C'était comme une expérience de pote, quoi, tout ça. Hein.
Ouais. Et alors, tu parlais de Patrick Gauthier également. Tu as eu un groupe avec
Patrick,
lui ?
Patrick, il y a un groupe qui s'est monté au début des années 90. On a fait un album qui s'appelle Sur les flots verticaux, qui est un très bel album.
Qui est le deuxième de Patrick.
C'était le deuxième de Patrick. Le premier, c'était
Bébé Godzilla.
Voilà, Bébé Godzilla.
C'est un disque que nous avons réédité sur Souffle Continu.
Voilà, qui aurait très bien pu être le nom du groupe, mais finalement, le nom qui a été choisi, ça a été un nom plus simple. Donc, le Patrick Gauthier Group. En honneur du leader. Mais bref, non, c'est Patrick, c'est aussi un super copain et puis j'adore ce qu'il fait. Et puis c'était une chouette expérience, une période pas facile, mais musicalement, c'était vraiment bien, quoi.
Bon, alors, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas d'extrait de cet album.
Bah, non.
Donc, on va en passer un extrait, un petit extrait. On va pas passer en intégralité hein, le morceau de Eldon sur lequel tu joues, qui s'appelle Omar Diop Blondin. Mais c'est qui, Omar Diop Blondin ?
Omar Diop Blondin, c'était un militant marxiste, je dirais, ouais. Sénégalais, qui est mort en prison. Je pense la prison de l'île de Gorée à l'époque, dans des circonstances un peu louches. Donc voilà, je pense que Richard a voulu faire un hommage.
Bah, on écoute un petit extrait de ce morceau et puis après on parlera de maintenant un petit peu quand même.
Sure.
Voilà, c'était Eldon. On a écouté un extrait de ce morceau, Omar Diop, Blondin. Alors peut-être, Alain, j'aimerais bien parler de tes autres activités. Je crois que tu as fait des films également. Est-ce que tu peux nous parler ? Est-ce que ce sont des documentaires ?
J'ai fait un film.
Un film, d'accord.
Un film documentaire. J'ai fait quelques vidéos aussi, dont une d'ailleurs pour Richard, qui est sur l'album Métatron, qui est un des albums de Richard Pinasse. Mais j'ai fait un film qui s'appelle Mémoire de Pierre sur un sculpteur qui s'appelle Shlomo Selinger, qui est un rescapé des Corans de la mort, qui est un type absolument formidable, qui doit avoir 92 ans là maintenant. C'est lui qui a réalisé le mémorial de la Shoah de Drancy. Oui. Enfin, le mémorial de Drancy, donc. Commémoratif de la Shoah, mais beaucoup, beaucoup d'autres œuvres qui sont un peu partout, dans Paris, en France, comme la Grande Allée de la Défense, puis plein d'autres choses. Enfin, donc c'est un mec qui travaille le granit, enfin, pratiquement avec ses mains, quoi, vraiment. Et donc, c'est ça, j'avais envie de faire ce film parce que je l'avais rencontré, j'avais vraiment beaucoup aimé cet homme. Qui est vraiment quelqu'un qui a une vie incroyable. Enfin bon, mais c'est un film sur qui parle du travail, qui parle de l'amitié, qui parle de l'art. Voilà, c'est pas un film proprement dit sur la Shoah, sur l'Holocauste, mais évidemment c'est un peu tout son discours. Enfin, tout ce film en est imprégné, évidemment.
Oui, bien sûr.
Voilà.
C'est sous-jacent.
Exactement. Donc. Ça a été présenté ici dans quelques salles, dont le Musée d'art d'histoire du judaïsme. Ça a été dans quelques festivals aussi autour du monde. Voilà, mais je suis très content de l'avoir fait. Ça n'a pas été tellement plus loin que ça, mais ça, je suis très content d'avoir fait ça, vraiment. Ouais. Je suis très fier de ce film.
Ouais, ok. Alors, j'ai vu aussi que tu avais fait de la musique pour la danse, pour le spectacle vivant.
Ouais, j'ai travaillé avec une chorégraphe. Qui s'appelle Kitsou Dubois.
Oui.
On a travaillé pendant, j'ai fait quoi, 3 spectacles avec eux. Donc j'étais sur scène et puis je composais, je jouais la musique pendant que les danseurs s'activaient. Alors c'était une super expérience, vraiment très très agréable, très agréable. Rencontrer des, vraiment travailler avec la danse, c'est magnifique évidemment. Hein. Ouais. Puis il y avait une certaine liberté. Ouais. Quand même, donc.
Alors en plus, cette chorégraphe, si je ne m'abuse, est très inspirée par la pesanteur, enfin les histoires de.
Elle travaille effectivement son travail, enfin à l'époque, je ne sais pas trop maintenant parce que je n'ai pas vraiment suivi, mais elle partait même dans des vols paraboliques,
ouais.
Avec les danseurs qui développaient des mouvements. Justement en apesanteur, donc comme c'est toujours à peu près 25 secondes en haut de la courbe parabolique, donc il travaillait là-dessus et puis il recréait sur Terre en fait en état de gravité terrestre. Ils s'inspiraient en fait des mouvements qu'ils avaient développés en apesanteur. Et ça donnait des choses très, très intéressantes. Évidemment, souvent des mouvements très lents, très découpés.
Donc ta musique était adaptée, j'imagine
à... Ah ben la musique, ouais, mais j'en ai pas apporté, mais j'en ai plein. Ouais. Ouais. Non, c'était très, très, très chouette de faire, de travailler avec ces gens-là.
Ouais. Alors parlons de maintenant. Alors actuellement, est-ce que tu continues des activités musicales ou artistiques plus largement?
Oui, ben là, en ce moment, bon, pas grand-chose, mais j'ai joué pendant quelques années dans un groupe de blues au Mexique, mais je jouais de la basse avec des Américains, des Mexicains. Là, j'ai à nouveau des velléités, puis j'ai travaillé avec un autre groupe aussi à Montréal. Je lâche pas, lâche pas ça.
Tu, hein. Tu connais un petit peu la scène québécoise et je pense à des gens comme René Lucier ou tout ça.
Ah bah René Lucier, oui, bien sûr. Hein, c'est dur de pas le connaître. Hein,
ouais,
donc,
ouais.
Ah ouais. Mais oui, non, mais c'est évidemment.
Et qu'est-ce qu'ils deviennent tous ces gens-là?
Ah ben bah, ils jouent toujours.
Parce qu'on les voit plus ici, par contre.
Ils sont toujours là, Normand Guibaud, tout ça. Oui, ben ils jouent toujours.
Jean de Rome. Pierre Tanguay, le batteur, était super.
Tanguay, bien sûr. Ouais,
ah, tu les connais,
Michel Avecoté, ouais, je les connais tous ces gens-là.
Super.
Ouais. Ah ouais, c'est des musiciens, super musiciens, ouais. Qui font une très belle musique.
Ouais, aussi, ah oui, ouais, ouais. J'adore, on les voyait beaucoup il y a 20 ans.
C'est donc, ça,
dans
ouais,
tous les festivals.
Et une fois, ouais, son d'hiver, on les a vus plein de
fois.
Oui,
Mulhouse,
ouais.
Dans les bleus. Et alors, Martin Tétrault me disait un jour que c'était tout simplement une question de pognon, ça coûtait cher de faire venir les.
Ben, une question de pognon. Alors bon, le Canada, évidemment, il y a tout un système de subventions, de bourses avec le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec. Mais moi, pour moi, il faut pas compter là-dessus pour faire de la musique, sinon on est foutu. Moi, je suis un peu sur le modèle américain. Je sais pas en France comment ça se passe, mais ben, si on veut faire de la musique, on fait de la musique, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais c'est sûr que pour sortir des choses, le milieu artistique est quand même très subventionné. Ouais. Donc c'est bien. Je dis pas que c'est pas bien. Mmh. Mais c'est vrai que quand les subventions ne sont pas au rendez-vous, eh ben, il ne se passe rien. Alors, c'est qu'il y a un problème. Hein. Mais bon, je tape sur personne, là, hein, vraiment. Mais bon, tous ces gens-là dont tu parles, ils font vraiment de la très belle musique. Ils ont fait beaucoup aussi de musique de film. Ils ont travaillé pour l'ONF, l'Office national du film du Canada. Moi, j'ai fait quelques musiques de films pour eux aussi, pour l'ONF. Puis voilà, il y a quand même une scène intéressante. Il y a plein de jeunes groupes aussi. Hein. Ouais. Mais la scène la plus dynamique pour moi, c'est la scène plutôt côté anglophone. Il y a un label qui s'appelle Constellation.
Ah, mais bien sûr, oui.
Il y a, c'est Godspeed, en fait, Black Emperor. Alors, eux, vraiment, maintenant, il y a un club, ils ont une salle, et puis ils développent, il y a plusieurs groupes, il y a plein de moutures de groupes qui sont partis de ça. Ils ont un super studio, et puis c'est des mecs, ça y va. Hein.
Puis ils tournent aussi, on arrive à aller le voir ici.
On arrive à les voir, et ils ne font pas vraiment de publicité, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que
des mecs et des nanas d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de femmes.
Beaucoup. C'est vraiment intéressant.
C'est un vivier, quoi.
Il y a toutes sortes. Oui, c'est un vrai mouvement. Un vrai mouvement pour moi. La scène montréalaise, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dynamique pour moi, ces gens-là.
Alors, est-ce que la réédition de Si Fluorescente te donne-t-elle des idées de refaire un disque, des chansons?
Oui, mais ça fait longtemps que j'en ai des idées. Mais, je travaille. J'ai beaucoup de musique que j'ai écrite et que j'ai produite. Mais qui est pas sorti, quoi. Donc je suis en train de regarder un petit peu qu'est-ce que je peux faire avec ça et puis éventuellement élaborer là-dessus avec ça, quoi, par-dessus.
Et alors, et vous, Théo, alors au souffle continu, est-ce que je crois que vous avez sorti un autre album de Steve Potts?
Oui, tout à fait. Qui est le premier album de Steve Potts?
Ouais.
Musique d'un film pour un ami.
Carrément,
qui est une musique de film.
Ouais.
Et alors l'anecdote, parce que donc on a eu envie de sortir le disque de Steve et celui d'Alain en même temps. On s'est dit c'est deux disques qui sont un peu chauds, un peu groove et qui sortent un peu de l'ordinaire, de ce qu'on fait habituellement dans nos rééditions, qui sont soit plutôt marquées prog, soit plutôt rock, soit plutôt free jazz. Et donc là, ça marquait une autre couleur. Et la petite anecdote dont je veux revenir, c'est qu'Alain et Steve se connaissent. Et quand on a parlé à Steve d'Alain et à Alain de Steve, ils nous ont dit « Ah ouais, tout à fait !» C'est assez rigolo. Je pense qu'Alain peut dire un truc, comment ils se sont rencontrés. Ils ont joué ensemble, aussi buffé ensemble, c'est
ça ? Oui, plutôt, je dirais. Je pense que la première fois que j'avais joué avec Alain Renaud à la fête de l'humanité, je ne sais plus, là, ça date de je ne sais pas, 1203 peut-être.
Le temps du communisme.
Voilà, au temps du communisme. Triomphant, je dirais.
Oui.
Et donc, c'est ça, c'est qu'on a fait notre gig et puis Steve jouait sur une scène à côté, je pense, puis il est venu jouer avec nous. Donc, et ensuite, mais je l'ai revu à New York, c'est ça. Après, il jouait avec Steve Lacy, tout ça. Donc c'était. Puis on s'est côtoyé, quoi, disons. Puis c'est un type super. Hein. J'aime beaucoup son tone, sa sonorité. Ouais, et puis c'est un super musicien, quoi.
Ouais, très bon. D'ailleurs, qu'il faudra inviter ici, prochainement.
Oui. Absolument.
Et alors, Théo, est-ce que vous avez d'autres idées de sorties de disques à venir. Est-ce que
des idées, on en a beaucoup.
Est-ce que tu peux nous dire des tuyaux, des tuyaux ?
Les tuyaux, en gros, on va s'attaquer à un label,
ouais,
qui est important et dont il n'y a pas eu de vrai travail dessus. C'est le label de Gilson,
ah oui,
de Jeff Gilson, qui s'appelle Palm.
D'accord.
Voilà. Donc on travaille là sur le nettoyage des bandes et il y a un gros boulot de masterisation,
ah oui,
parce que les disques n'ont pas été forcément très très bien enregistrés à l'époque, les bandes pas très bien conservées non plus, donc il y a du boulot, mais il y a une belle perspective parce qu'il y a des très très belles musiques derrière tout ça, quoi.
D'accord, d'accord. Et alors, est-ce que ça, avec le Covid, machin, tout ça, est-ce que ça continue, les rencontres au souffle continue ?
Bah, pour l'instant, on a levé le pied parce que c'est un peu compliqué. Mais on organise un festival annuel au Théâtre Berthelot.
Super.
Et en général, sur 3 jours. Cette année, on a décidé de le faire sur 1 jour.
Ah oui ? C'est quand ? C'est où ?
C'est le 18 octobre. Ah. Le 16, non, le 16. C'est un vendredi.
Ouais.
Je crois que c'est le vendredi 16 octobre. Et c'est le vendredi 16 octobre.
Et la programmation ?
Et la programmation, il y a Benjamin Duboc et Sylvain Cassap. Il y a François Corneloup en quartet.
Ouais.
Et il y a Paul Vacrenier en quartet, plus invité.
C'est Healing Orchestra ?
Healing Orchestra.
Super, ouais. Oui, on l'a reçu il n'y a pas très longtemps ici.
Ben voilà.
Eh ben super, ben merci. Alors merci à vous deux. Alors on va se quitter avec... avec un morceau, Kirlian Effect, qu'est-ce que c'est que ça exactement ?
Kirlian Effect, c'était le groupe que j'avais monté à New York avec Tony Smith, Fernando Saunders, Alan Smallwood. Et voilà, on a enregistré plusieurs titres, mais il n'y en a que 2 qui sont sortis. Et voilà, c'est sorti sur un... Il y avait une occasion de le sortir en 45 tours. Alors, c'est sorti en 45 tours, à l'époque, chez Carrère. Et là, j'ai pensé que c'était une bonne idée. Enfin,
ouais.
Et ils étaient d'accord,
ouais,
de mettre ça en bonus sur le CD. Quoi.
Sur l'album Si Fluorescente. Ouais. Eh ben, merci à vous deux. Merci, ouais, à
Théo. Merci à toi.
Merci Alain. Beaucoup. Et puis la semaine prochaine, on recevra Emmanuel Pellegrini pour le festival Densité. À 17h30, nos amis de Radio Esperanto. Allez, salut, salut à tous.
Salut.